Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Pas mal de choses ce matin. D'abord, un mot sur l'Ukraine. On surveille ça de près. Le président Biden a fait un discours hier en disant qu'il n'y a aucune raison pour les Russes d'envahir l'Ukraine, qu'il faut continuer de parler, que l'Ukraine est un pays indépendant et que l'Ukraine peut, évidemment, prendre toutes les décisions qui concernent la population et ne pas se faire dicter quoi que ce soit. Entre-temps, la Russie annonce la fin de certaines manœuvres militaires et le départ de centaines de soldats qui se trouvaient en Crimée. On sait qu'il a été annexé. Et aussi le déploiement de ces soldats, donc, et le retour de ces soldats vers d'autres campements. C'est un peu un jeu du chat et de la souris avec les Américains, les Polonais, les Allemands qui regardent ça. Alors, officiellement, le message de Moscou, c'est il faut se parler, il faut que la diplomatie devienne la seule façon de régler le problème, mais nous demandons qu'il y ait une discussion sur les enjeux qu'on soulève, entre autres, la place de l'Ukraine dans le reste de l'Europe et avec les forces de l'OTAN. Alors, pour l'instant, donc, la diplomatie semble dominer et ça peut être carrément stratégique, là. Parce qu'entre-temps, en Ukraine, on dit qu'il y a eu des attaques par des pirates informatiques et on soupçonne évidemment les Russes d'avoir ciblé, entre autres, des sites du ministère de la Défense. Bon, chez nous, c'était la journée hier pour annoncer un certain nombre d'assouplissements. Je vais commencer par Québec et le passeport vaccinal. Alors, dès aujourd'hui, le passeport vaccinal n'est plus requis pour aller à la Société des alcools du Québec, Société québécoise du cannabis, puis les grandes surfaces. Donc, dans les magasins, il n'y en a plus de passeport comme tel. Et là, il y a un calendrier qui nous amène jusqu'au 14 mars, où là, le 14 mars, ben l'ensemble des mesures... En fait, le passeport, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire que pour aller au restaurant, pour, voir un spectacle, voir quelqu'un dans une résidence pour personnes âgées, ça veut dire que ça ne sera plus demandé. Le 21 février, par exemple, pour ce qui est des lieux de culte, il n'y aura pas de passeport vaccinal, mais c'est le 14 mars qui est la date où le passeport vaccinal n'est plus utilisé au Québec. Le ministre a dit, gardez-le quand même dans votre téléphone. Pourquoi? Parce que, est-ce que ce passeport-là pourrait revenir? Personne ne veut ça, là. Mais on ne sait pas. S'il y a une autre vague, est-ce qu'on va être obligé de faire, encore une fois, un certain confinement ou restreindre les activités? Mais disons que l'objectif, c'est de se débarrasser du passeport vaccinal. Puis là, on va quand même se dire les choses franchement. Je regardais les réactions hier, là. D'abord, vous avez des experts, des gens qui ont des diplômes puis qui n'ont pas le même point de vue, qui considèrent que c'est trop rapide, qu'il y a encore un nombre de cas trop élevé dans les hôpitaux, qu'on se met à risque. Puis là, il y a la relâche scolaire. On aurait dû attendre peut-être encore un mois et demi avant de laisser tomber le passeport vaccinal. Et pourquoi il a été créé le passeport vaccinal, on va se le dire. Un, pour forcer les gens à se faire vacciner. Quand je dis forcer, là, les inciter en disant « si tu vas aller au resto, si tu veux voyager, ça va te prendre ça ». Québec dit qu'il y en a 600 000 qui ont décidé de le faire en raison du passeport. Je ne le sais pas, mais j'en connais quand même un certain nombre. Deuxièmement, on voulait s'assurer qu'en reprenant les activités, par exemple, dans les restaurants, qu'il n'y ait pas un risque trop élevé de contagion. Vous allez me dire, oui, mais des employés non vaccinés, ce qui est vrai. On espace les tables, les gens sont vaccinés, donc des effets moins graves. Puis en même temps, on sait que quand on est vacciné, on peut quand même transmettre le virus. Puis là, je sais, il y a un débat là-dessus, mais essentiellement, on peut dire que la période de transmission est moins longue et la charge un peu moins forte aussi. Alors ça, c'était l'autre raison. Puis la troisième, non avouée, C'était pour donner un certain privilège aux gens qui s'étaient fait vacciner. Puis je reçois des courriels, puis j'ai vu des commentaires hier de gens là qui sont pas nécessairement à l'aise de retourner dans un restaurant où il y a des gens non vaccinés. C'est un sujet de débat. Dans un magasin, c'est une chose, tu croises les personnes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont renoncer à aller au restaurant parce que le passeport vaccinal va disparaître? Peut-être. Reste l'enjeu du masque, qui n'est pas réglé. Et est-ce qu'on va retirer cette obligation de porter le masque? Je dirais qu'il y a quand même un assez large consensus d'experts, là. Puis on va parler avec Dr Weiss tantôt pour dire qu'on est mieux de le garder pendant un certain temps pour les activités à l'intérieur, par exemple. Alors, dans les écoles, ça risque d'être maintenu. Mais pour ce qui est des enjeux, on le voit, là, le passeport disparaît mi-mars, même s'il ne reste pas loin. Le port du masque, l'impression qu'on va attendre, quoi qu'il y avait une ouverture de la santé publique, sans trop se commettre, évidemment. Puis il reste le débat qu'on a vu hier sur l'urgence sanitaire. Et là, ben, Québec maintient le cap en disant on va déposer un projet de loi, puis plus il est adopté rapidement, ben, plus on va stopper l'urgence sanitaire, qui donne quand même un bon registre de pouvoir au gouvernement là-dessus. Puis les oppositions ont martelé ça hier. François Legault a dit, regardez bien, là, ça nous permet d'embaucher du monde, ça nous permet de donner des primes, et ça nous permet de gérer plus facilement. Alors, on va renouveler, donc, encore une fois, l'urgence sanitaire. Entre-temps, à Ottawa, on appelle ça des assouplissements. Il y en a quelques-uns. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, pour les gens qui sont vaccinés et qui voyagent. Vous partez du Canada, la première affaire qu'il faut vérifier, quelles sont les règles dans les autres pays. Il y a des pays qui vont vous demander une preuve, évidemment, de vaccination, preuve vaccinale, le fameux passeport, version canadienne, et qui vont aussi exiger un test avant que vous arriviez, dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça peut être ça. Il y a d'autres pays qui ne demandent rien. Mais il y a un certain nombre là, qui ont quand même des... surtout venant du Canada, parce qu'on a eu quand même, disons, un taux élevé à une certaine période. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu te fasses tester. Tu t'en vas là-bas. Encore là, te soumettre aux règles. Est-ce qu'il y a un confinement? Pas de confinement? Ça reste à voir. Et quand tu veux revenir, tu dois aller te chercher un test qui peut être un test rapide. Mais il faut aller dans un centre désigné, une pharmacie. Tu ne peux pas traîner ton test rapide du Québec, te tester toi-même, puis te dire « voici le résultat ». C'est pas permis. Et là, quand tu arrives, il y a encore un autre test potentiel qui t'attend. PCR. Le ministre a dit que ça va se faire de façon aléatoire. On parle de combien de personnes? C'est quoi le ratio? Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? On parle de gens qui sont déjà vaccinés, qui n'ont pas de symptômes, qui ont passé un autre test. Le seul assouplissement, c'est de dire « allez-vous-en chez vous, vous ne serez pas obligé d'attendre en quarantaine ». Puis pour les enfants de 12 ans et moins qui accompagnent leurs parents, ce qui n'avait aucun sens entre vous et moi, des parents vaccinés, mais là, les enfants vont pouvoir aller à l'école. Puis là, on pense tous à la semaine de relâche scolaire. Mais c'est encore là, puis j'écoutais M. Duclos dire, oubliez pas, si vous partez, on ne sait jamais, vous allez peut-être pogner la COVID une fois sur place, puis quand vous allez revenir, peut-être que nos règles vont avoir changé, ça va être pire. Fait que c'est sûr que l'industrie du voyage est assez contrariée. Puis j'ai des gens qui partent, là, puis qui se disent, coudonc, je veux bien, jusqu'à un certain point des tests, c'est moins pire, là, parce qu'on sait que la compagnie qui faisait affaire avec le fédéral pouvait livrer ça rapidement dans certains cas, mais dans d'autres, ça voulait dire 5-6 jours, donc cette obligation-là vient de disparaître. On dit, c'est pas essentiel voyager, mais en même temps, le message est assez précis, c'est-à-dire qu'on est en train de décourager les gens qui pensent à voyager. Et puis, un mot également sur l'antiviral Paxlovid, qui est, encore une fois, présenté comme un traitement là, efficace, utile pour, justement, guérir la COVID. Donc, il semble que, puisqu'on a davantage accès à ce médicament-là, ça joue aussi dans la décision de laisser tomber le passeport vaccinal. Le Devoir dit ce matin qu'il y a des milliers de doses qui dorment sur les tablettes de pharmacie. On ne dit pas lesquelles. Et que les hôpitaux écoulent leurs comprimés au compte-gouttes parce que, semble-t-il, un certain nombre de contre-indications liées à ce nouveau médicament. Alors, donc, on protège les stocks. C'est un médicament aussi qui est assez coûteux. Tu as toujours peur qu'il y ait des vols. Et il semble également qu'il y a des médecins qui voient le Paxlovid comme un traitement quand même d'exception et qu'on devrait avoir un accès accru à ce médicament. Puis là, il y a peut-être des contre-indications, mais bref, disons que c'est une des clés là, pour le traitement des gens qui souffrent de la COVID. Un petit coup d'œil vers Ottawa, ben ça bouge pas. C'est-à-dire que les manifestants sont là. Hier, ils prenaient du soleil. Ils ont l'air parfaitement heureux. Et ils n'ont pas l'intention de bouger, en tout cas pour la plupart. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui se demandent jusqu'à quel point la loi sur les mesures d'urgence va amener les banques à geler les comptes des individus et des entreprises qui manifestent. Le gouvernement fédéral prétend que ça va se faire. Ça reste à voir, puis quand ça va se faire aussi. L'autre élément, c'est qu'on dit que les enfants n'ont plus le droit de participer à des blocages. Ça fait partie des décrets qui accompagnent la loi sur les mesures d'urgence. Et donc, pour l'instant, il y a deux règlements qui ont été déposés. Tout ça pour préciser que c'est une période de 30 jours. Puis je rappelle que le Québec n'en veut pas. Mais que ça va s'appliquer donc de façon géographique. Alors, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que le chef de la police d'Ottawa finalement a démissionné. C'est comme le constat d'échec de toute l'opération qui a été mal planifiée, qui a été mal exécutée. Puis on a vu venir ces camionneurs en se disant ils s'en viennent faire un peu de tourisme, puis ils vont repartir, alors que c'était écrit dans le ciel qu'on se préparait pour un siège devant le Parlement. Puis entre-temps, à Québec, ben, la manif est prévue en fin de semaine. Là, tu pourrais leur dire, bien, le passeport s'en va. Puis là, ils vont dire, ouais, mais on voudrait qu'il parte maintenant. Tu dis, OK. On veut que le go s'en aille. Puis aussi, on veut que le masque disparaisse. Alors, on présente ça comme une espèce de fête de famille, encore une fois. Et la Ville de Québec qui va appliquer le même traitement pour éviter qu'on se retrouve avec un siège devant le Parlement ou ailleurs dans la Ville de Québec. Voilà. Un mot aussi sur les résidences pour personnes âgées. Puis les centres de soins de longue durée. C'est tellement à géographie variable que je comprends la frustration, on va y revenir plus tard, là, des gens. Là, le passeport vaccinal va sauter, là. Donc les gens vont pouvoir aller vous visiter. Mais là, il y a un paquet de règlements sur le nombre de visiteurs par jour, avec qui tu peux manger, combien de personnes. Tu sais, puis je comprends le syndrome là, de la première vague qui a déferlé sur les centres de soins de longue durée. Mais je vous donne un exemple. Vous habitez une RPA, là. Vous pouvez aller manger chez votre fils qui a deux enfants. Il n'y a pas de problème. Puis tu n'as même pas de passeport vaccinal. OK? Peux-tu inviter un dimanche tes petits-enfants avec leurs parents à un brunch dans ton appart? Réponse, non. Je vous donne un cas. En voulez-vous un cas fourraide, là? C'est un auditeur qui m'écrit. Ils ont déménagé les personnes âgées vers une RPA parce qu'ils avaient vendu leur condo. Ils sont arrivés au camion. Puis là, on a dit aux parents, puis là, c'est correct, là, il y a la gestion de l'ascenseur. Ils étaient 7 personnes pour déménager les parents. Là, ils nous ont dit que c'était pas plus que 4 pour un déménagement et 2 dans l'appartement à la fois. Pas plus que ça pour déménager, là. On parle de gens qui se déplacent, puis des gens qui sont vaccinés. Ce qui fait que 3 personnes sur les 7 sont venues là pour rien. Vous allez me dire, il aurait dû le demander. Non, mais moi, je veux bien, là. Mais les personnes âgées qui voient leur liberté restreinte, encore plus que tous les camionneurs de la planète, là, puis les autres manifestants, mais qu'on n'entend pas parce qu'ils sont silencieux, qu'ils n'ont pas de syndicat, qu'ils n'ont pas de lobby, ça devient fourrette. On prévoit que Québec va annoncer, Mme Blais revenue là, après son congé, des mesures pour rendre ça, disons, plus vivable. Une fois qu'on a annoncé les mesures, on peut s'assurer qu'elles sont mises en application? Parce qu'il y a des gestionnaires là, qui te jouent ça là, tellement serré. T'sais. Quand c'est rendu que quand tu vas prendre une soupe avec des amis de la résidence, c'est devenu un événement incroyable puis tu as les larmes aux yeux, ça en dit long. Et puis, évidemment, la liste d'attente, on peut le voir dans la presse, la liste d'attente en chirurgie qui continue de s'allonger. Aussi, ce matin, on va jeter un petit coup d'œil sur le sondage qui est publié dans le Journal de Montréal. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui ne croient pas au sondage, qui disent que tout ça est organisé, que c'est bon. Mais vous allez peut-être, si vous êtes partisan d'Éric Duhaime, vous réjouir ce matin. Pourquoi? Parce que le sondage montre que la CAQ est en avance à 41 %. Je rappelle que les élections, c'est prévu pour l'automne. Est-ce que ça sera avant? Une sorte de rumeur qui circule. M. Legault dit que non, pas question, on va faire ça tel que prévu à l'automne. Mais bon, 41 %. Les libéraux de Dominique Anglade à 20 %, soutenus massivement par le vote anglophone. Et arrive troisième, Éric Duhaime, 14 % au total, 25 dans la région de Québec. Québec solidaire est à 12, puis le Parti québécois est à 11 %. C'est sûr que Éric Duhaime, très actif, fait le plein des insatisfaits, des mécontents. Menace pas vraiment la CAQ, sauf peut-être dans certains comtés. Je pense évidemment à la région de Québec, puis la grande région de Québec, là. Mais c'est un message aux autres partis. On peut faire semblant qu'il n'existe pas, mais il existe. Puis visiblement, dans le contexte actuel, sur la colère des gens, il va arriver à convaincre un certain nombre d'électeurs. Est-ce que ça va tenir la route? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il menace vraiment la CAQ? Probablement pas. Mais il peut faire du dommage. Puis il peut, évidemment, pour les autres partis politiques, être l'empêcheur de tourner en rond. Puis l'autre question, quand le débat des chefs va arriver, il va avoir sa place. Fait que disons que c'est plus juste une distraction puis un élément négligeable. C'est 14 % avec un tir en dos quand même qui semble assez important. Alors, c'est publié ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le gouvernement fédéral modifie les règles pour les voyageurs. Précisons d'entrée de jeu que ce sont les voyageurs pleinement vaccinés et que ces nouvelles directives vont entrer en vigueur le 28 février prochain. Le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, est avec nous. Monsieur Duclos, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
M. Duclos, évidemment, des questions pour bien comprendre. Là. Si je prends un cas là, de quelqu'un qui voyage, comme la semaine de relâche s'en vient, un Canadien qui part en vacances pour une semaine va devoir être doublement vacciné, un, et en plus, va donc subir les règles du pays où il s'en va. On s'entend là-dessus?
Tout à fait.
Une fois qu'il veut revenir au Canada après sa semaine de vacances, il va devoir passer un test soit PCR ou un test rapide, mais un test rapide autorisé pour pouvoir revenir. Donc, il est toujours vacciné et il arrive ici et peut-être qu'il va se faire tester encore une fois.
Tout à fait. Ben, donc, je vais expliquer un peu plus, M. Arcand, parce que ce que vous dites, en gros, est vrai. Mais pour être plus clair, là, les gens qui reviennent au pays avant leur arrivée, avant leur départ, ont maintenant l'option de faire un test rapide. Tout le monde sait maintenant c'est quoi un test rapide. C'est plus rapide. Ben, évidemment, c'est moins coûteux et c'est plus efficace. C'est plus accessible aussi dans les pays où on peut voyager. Lorsqu'on revient, la grande majorité des gens ne seront plus choisis pour un test PCR. Si quelqu'un est choisi pour un test PCR, il va le faire typiquement à la maison, mais il n'y a pas besoin d'attendre le résultat de ce test-là pour sortir d'une quarantaine.
OK, mais quand même, là. D'abord, quand vous parlez de gens qui vont être sélectionnés de façon aléatoire, c'est quoi le ratio que vous avez en tête? C'est un passager sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, c'est quoi?
C'est à peu près 1 sur 5 à partir du 28 février, parce que tout ça rentre en vigueur le 28 février. 1 sur 5, et c'est fait pour deux raisons principales, M. Arcand. La première, c'est la seule manière pour nous, le gouvernement canadien, de suivre l'évolution des variants. Et deuxièmement, c'est la seule façon pour le gouvernement canadien de connaître là, les taux de positivité des gens qui reviennent au pays selon différentes provenances, parce qu'on sait que c'est pas toutes les provenances qui ont les mêmes risques. Là. Alors, c'est la seule façon scientifique de pouvoir valider ces deux choses-là.
J'allais vous dire, est-ce que cette information-là est encore pertinente quand on voit, par exemple, que de façon globale, on fait moins de tests qu'avant, qu'on se fie sur des projections? Ce que je veux dire par là, là, c'est que les gens qui voyagent, là, vous n'avez pas levé beaucoup d'obstacles. Là. Déjà que on parle de gens vaccinés, c'est très bien. Ils portent le masque, ils font faire un test avant de partir parce qu'on le demande là-bas. Ils se font tester là-bas, puis ils reviennent, puis ils ont peut-être quelques chances de se faire tester encore une fois. C'est pas beaucoup testé, ça.
Ben, il y a beaucoup d'obstacles qui ont été levés hier. Le premier obstacle, c'est que les tests rapides sont maintenant possibles. On sait que les tests rapides, à nouveau, sont moins coûteux, plus accessibles ailleurs dans le monde, y compris au Canada. La deuxième chose, c'est qu'une fois que les gens reviennent au pays, ils n'ont plus besoin de se mettre en quarantaine, même s'ils peuvent être choisis aléatoirement pour un test PCR. La troisième chose, c'est au sujet des enfants. Je le dis rapidement parce que c'est un peu intéresser les personnes qui nous écoutent, là, les familles qui peuvent partir en voyage avec des enfants en bas de 11 ans. Jusqu'à maintenant, la directive de la santé publique fédérale, c'était que ces enfants-là, s'ils n'étaient pas vaccinés, devaient s'isoler pour 2 semaines avant de retourner dans leur garderie ou dans leurs écoles. Cette directive-là disparaît. Les familles vont se fier maintenant aux consignes de santé publique locale. Donc, c'est quand même beaucoup de choses en peu de temps, je crois.
Mais vous avez vu la réaction, je pense, aux transporteurs aériens. Je pense à l'industrie touristique puis aux agents de voyage qui en arrachent depuis 2 ans, mais qui disent, on demandait au fédéral d'aplanir les obstacles, qu'il y ait des conditions, le passeport vaccinal, très bien. Mais en plus, vous ajoutez hier, ben là-bas, vous allez peut-être pogner à COVID, puis en plus, peut-être que quand vous allez revenir, les règles vont avoir changé. Disons que vous faites tout pour que personne ne voyage, là.
Ben, 3 choses ici. La première, c'est que oui, on a plané et on a assoupli les conditions pour les vacciner, ça vous l'avez dit dès le départ. Deuxièmement, quand on voyage à l'étranger, il faut continuer à savoir que la COVID-19... beaucoup à travers le monde est encore très présente. Il y a 2 fois plus de cas actifs de COVID-19 dans le monde maintenant qu'il y en avait au début du mois de janvier. Donc, les risques continuent à être importants. Et la troisième chose, c'est qu'avec les méthodes qu'on vient de mentionner, on va continuer à suivre la situation. Si les choses continuent d'aller bien, en termes d'hospitalisation, en termes de taux de positivité dans les avions, si j'ouvre une parenthèse rapide, M. Arcan, en janvier, là, il y avait à peu près 1 voyageur sur 8 dans les avions qui était infecté de la COVID sans le savoir parce que cette personne-là avait, tous ces gens-là dans l'avion avaient déjà eu un test négatif avant d'embarquer dans l'avion et pourtant, une fois au retour au pays, il y avait à peu près 1 sur 12, pardon, là, qui avait la COVID-19. Maintenant, ça a diminué ces taux-là. Ça va continuer de diminuer, on le croit, mais il faut continuer à suivre la situation, être prudent et être progressif.
OK. Là, on parle beaucoup pour les avions. Maintenant, pour les déplacements terrestres aux frontières ici, là. Quelqu'un qui, je sais pas moi, revient de Floride, ce sont les mêmes conditions?
Ce sont les mêmes conditions, frontières aériennes et frontières terrestres.
OK. Et pour les gens qui vont pour des courts séjours, par exemple, quelqu'un qui part pour 24 heures à Burlington, est-ce qu'il doit se faire tester au retour avec un test rapide pris là-bas?
La personne qui quitte pour quelques jours là, à Burlington ou ailleurs et, a les mêmes conditions de retour au pays.
Attendez-le, vous. Moi, je pars samedi pour aller à Burlington. Il faut que je me fasse tester pour revenir, si je reviens la même journée?
Bien, pour l'instant, vous auriez besoin de faire un test PCR avant de revenir. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir un test rapide qui se fait généralement en 15 minutes, qui coûte beaucoup moins cher, évidemment, qui est facilement accessible. Donc, c'est une amélioration. Évidemment, un jour, on espère que la santé publique va nous dire que les taux de positivité sont suffisamment faibles pour enlever ça totalement, certainement pour les gens vaccinés.
OK, puis les Américains qui rentrent ici, c'est-tu la même chose? Est-ce qu'ils sont l'obligation d'être testés?
C'est pareil pour tout le monde.
OK.
Pour les gens vaccinés, là, j'entends, parce que les Américains non vaccinés ne peuvent pas rentrer au pays.
OK. Vous trouvez pas que c'est beaucoup quand même, là? Puis là, je comprends que c'est pas la majorité des Canadiens, mais les déplacements transfrontaliers pour une journée, pour un week-end, des gens qui vont à New York pour une fin de semaine, des gens, ça peut être par affaire aussi, là, de se faire tester avant 48 heures pour un séjour à l'étranger.
Bien, il y a 2 choses qui sont effectivement difficiles pour tout le monde. C'est lorsqu'on voyage à l'étranger, des fois, on le fait pas seulement par plaisir, mais par obligation. Il y a effectivement ces procédures qui sont d'ailleurs souvent symétriques avec celles d'autres pays. Les tests rapides là, pour entrer aux États-Unis, c'est la même chose. Les tests antigènes sont permis. La deuxième chose qui est difficile, c'est pour l'industrie du transport, l'industrie touristique. Ça va s'améliorer. Ça s'améliore déjà avec l'annonce d'hier. La troisième chose, bien, on suit les chiffres. Comme je le disais, en janvier, là, on avait à peu près 4% des nouveaux cas par jour qui étaient dus à des voyageurs qui rentraient au pays. 4%, même si ces voyageurs comptent pour à peu près 0,2 de 1% de la population canadienne. Les choses se sont améliorées depuis, mais on suit la tendance et on espère pouvoir continuer là, à alléger, à améliorer les mesures autour de la frontière.
La vaccination obligatoire est requise pour les camionneurs qui vont, on le sait, vers les États-Unis, puis les camionneurs américains qui rentrent au Canada. Qui a eu l'idée d'imposer la vaccination aux camionneurs, les Américains ou le Canada?
Ce sont les deux. Les deux pays se sont parlé. Et on a évidemment aussi parlé à l'industrie du transport, aux entreprises. Et quand on leur parle, M. Arcan, la grande majorité d'entre nous nous disent que le problème, c'est pas la vaccination. Le problème, c'est l'absentéisme, c'est la maladie, les camionneurs, les équipes, les gens avec qui les gens sont en contact, qui sont infectés et qui doivent s'isoler. C'est ça le problème, c'est l'absentéisme causé par la COVID-19. L'ennemi, c'est pas la vaccination, l'ennemi, c'est la COVID-19. Et ce que les gens de l'industrie et les représentants des camionneurs nous disent, c'est que lutter contre la COVID, c'est la meilleure façon de protéger l'industrie.
OK, mais M. Duclos, je suis pas en train de défendre là, le siège d'Ottawa. Là. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que on a accepté que les camionneurs soient pas vaccinés parce qu'ils font partie de la chaîne d'approvisionnement. Il y a plein de professeurs, il y a plein de travailleurs dans des usines qui aussi doivent quitter parce qu'un enfant est contaminé puis parce que eux-mêmes le sont. C'est pas le propre aux camionneurs. C'est parce que moi, je me mets un peu à leur place. C'est vrai, j'aurais été en maudit. Je parle des gens qui sont pas vaccinés. Ça fait l'affaire, on tolère, puis là, soudainement, bang, on veut pas.
Bien, au début, il était évidemment difficile de demander aux gens d'être vaccinés parce que quand on s'était parlé il y a un an de ça, il n'y en avait pas de vaccin au Canada. Donc, la vaccination a augmenté beaucoup au cours de 2021. Ça a pris un certain temps, d'ailleurs. C'est simplement à partir de l'automne dernier que les taux de vaccination ont commencé à être très élevés au pays. Et c'est la même chose qui s'est produite aux États-Unis. Donc, on a annoncé en novembre là, dernier, donc il y a plusieurs mois, que la vaccination obligatoire allait s'appliquer à plus de voyageurs qui devaient franchir la frontière américaine. Et c'était fait de la même manière par les Américains à l'époque. Et ça a été mis en place là, à peu près en même temps en janvier dernier.
OK. Et est-ce que vous avez des discussions actuellement avec les Américains pour, si vous avez coordonné l'implantation de ces mesures-là, coordonner le retrait de ces mesures?
Bien, il y a des mesures qu'on a fait hier. Là, on a annoncé un assouplissement de plusieurs mesures pour les voyageurs vaccinés. C'est sûr que l'administration américaine et le gouvernement canadien sont sur la même longueur d'onde en termes de ce qui est l'ennemi. À nouveau, l'ennemi, ce n'est pas la vaccination, c'est le virus. Se faire vacciner, c'est pas une punition, c'est une protection. Et c'est vrai pour les Américains comme pour les Canadiens. C'est ce qu'on croit être la meilleure façon de passer à travers la vague qu'on a présentement, mais aussi de se protéger contre d'autres vagues et d'autres variants qui vont presque certainement se produire dans les prochains mois. Donc, si on veut être prêt pour ça, pas se retrouver les culottes baissées, comme on peut dire, bien, il faut continuer les efforts de vaccination. Par exemple, au Québec, on est à 50% de doses de rappel. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça...
Mais pourtant, au Québec, on a annoncé encore hier des allègements. On a un calendrier. Le fédéral ne veut pas donner de calendrier, mais le gouvernement du Québec en a donné un. Je veux dire, on sait, c'est prévisible, on sait ce qui s'en vient. Vous n'avez pas l'air très, très porté là-dessus.
Bien, c'est un plan qui s'ajuste. Là, on a annoncé hier des mesures qui vont avoir effet le 28 février. Il y a des décrets qui sont renouvelés à tous les mois. Il y en aura un qui va être renouvelé dans quelques jours, un autre en mars, un autre en avril. Donc, les mesures continuent à s'ajuster en fonction de l'évolution de la situation. On est encore, M. Arcan, là, au Québec, en processus de délestage dans les hôpitaux. Partout au pays, bon, on a baissé le nombre d'hospitalisations. On est passé de 11 000 à 7 000. C'est très bien. Et 7 000 hospitalisations, c'est le record d'hospitalisation qu'on avait eu avant la crise d'Omicron. Donc, on est dans les hôpitaux, les travailleurs de la santé, les gens dont les chirurgies sont retardées, qui n'ont pas les diagnostics, ouais, qui n'ont pas les services médicaux dont ils ont besoin. Il y en a encore beaucoup au Québec et ailleurs au pays.
Mais ça, personne ne va argumenter là-dessus. Il y a deux questions. La première, là, je vous écoute, vous avez l'air plus en mode crise COVID que les autres provinces canadiennes qui laissent aller beaucoup, même Doug Ford qui annonce un plan qui est tanné du masque, tout ça. C'est comme si les premiers ministres des autres provinces voient qu'il faut vivre avec le virus puis qu'il y a un niveau de vaccination assez élevé qui peut permettre ça puis qu'il y a eu, dans le temps des fêtes, assez de gens contaminés. Vous avez l'air encore comme 6 mois en retard.
Ben, moi, mon rôle, M. Arcan, c'est d'être ministre de la Santé. Moi, je protège la santé des gens. Je comprends que les premiers ministres des provinces ont différentes situations politiques et contraintes particulières à leur environnement. Moi, ma job, c'est de protéger la santé des gens. Je le fais de manière, avec tous mes collègues des ministres de la Santé, d'ailleurs, du pays, de manière qui s'adapte à l'évolution de la situation, en collaboration, évidemment, avec d'autres ministres qui s'occupent aussi des questions plus économiques. Et on sait que la vaccination, oui, elle est bonne, mais en termes de dose de rappel, elle n'est pas suffisante. On sait que deux doses contre l'Omicron, c'est pas suffisant. Ça protège pas assez contre l'hospitalisation. Donc, il faut aller plus loin au Québec et ailleurs au pays. C'est une de mes jobs là, avec mes collègues des ministres de la Santé, des provinces et des territoires.
OK, je sais que vous devez aller, mais j'ai une dernière question très rapide. Là. L'antiviral, le Paxlovid, là, est-ce que les stocks sont suffisants? Quel est le portrait là, de l'entrepôt, si on veut?
Il y a trois choses ici. Oui, les stocks sont suffisants. Deux, il va y en avoir encore beaucoup plus là, qui vont être livrés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et trois, l'enjeu pour le Paxlovid, M. Dubé y a fait allusion brièvement encore hier. L'enjeu, là, c'est de s'assurer qu'au Québec, dans les hôpitaux et ailleurs, le Paxlovid soit davantage utilisé par les experts, par les services médicaux, par les médecins et autres. Donc, c'est pas un enjeu de stock, c'est pas un enjeu de livraison, c'est un enjeu d'usage médical en milieu clinique au Québec et ailleurs.
OK. C'est quoi le stock pour le Québec actuel là, de Paxlovid?
Ah, je pourrais pas vous le dire, là, parce qu'il y a 10 provinces et 3 territoires, puis je connais pas les chiffres exacts, mais il y a 30 000 qui ont été livrés en tout, il y a déjà plusieurs semaines, il y en a plusieurs autres qui sont arrivés au cours des derniers jours, puis il y en a plus encore qui vont arriver en mars.
Merci, M. Duclos.
Merci, bonjour à tout le monde.
Jean-Yves Duclos est le ministre de la Santé du Canada.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
À compter d'aujourd'hui, donc, le passeport vaccinal n'est plus exigé aux succursales de la Société des alcools, de la Société québécoise du cannabis et ce qu'on appelle les grandes surfaces. Dès le 21 février, c'est une obligation qui va également disparaître pour ce qui est des lieux de culte et finalement, à compter du 14 mars, ben, pour l'ensemble des commerces, des restos, des salles de spectacle, le passeport vaccinal va disparaître. Ça a suscité beaucoup de réactions et on va regarder ça avec notre invité régulier, Dr. Carl Weiss. Dr. Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
D'abord, est-ce que, hier, on a vu en tout cas beaucoup de commentaires. Certains disent que c'est trop tôt, d'autres trouvent qu'on devrait aller plus vite. Est-ce que vous trouvez que c'est le moment de retirer, là, avec le calendrier qui a été présenté, le passeport vaccinal?
Ben, écoutez, c'est quand même un calendrier qui nous donne un certain temps, puisqu'on retire ça jusqu'au 14 mars, donc on a quasiment un mois. Donc, c'est pas précipité. Je pense que c'est fait de façon graduelle et avec une possibilité toujours de réévaluer les choses. On voit que la situation de la COVID est en train de s'améliorer. Le nombre d'hospitalisations tourne maintenant autour de 2000. On s'était dit que le 15 février, on devrait atteindre, je dirais, un état où on pourrait souffler beaucoup plus. Et on le voit au niveau hospitalier. En tout cas, en ce qui nous concerne, on voit que le nombre de cas a diminué de façon très drastique. Donc, on est à une étape où, avec les données que près de 2 millions de Québécois ont fait la COVID en tant que telle depuis, on va dire, la période des fêtes, on est dans cet équilibre où on peut se permettre d'avancer plus de choses. Je vous dirais ce qui est encourageant, on a quand même commencé à lever un certain nombre de mesures depuis 2-3 semaines. Les écoles, par exemple, le retour à l'école, les restaurants, certaines choses sont ouvertes maintenant. Et on n'a pas vu, en dépit de ça, une augmentation importante du nombre de cas ou une surcharge du système hospitalier. Donc, on devrait voir ça comme quelque chose de positif. Donc, moi, je pense que comme c'est fait A, graduellement, B, sur une période de maintenant à peu près 4 semaines, on a le temps de se retourner puis de voir ce qui va arriver. Puis, il ne faut pas oublier non plus que oui, si on enlève le passeport vaccinal, on continue de garder les masques, qui est un filet de sécurité supplémentaire.
Bon, justement, j'allais vous parler des masques. La question a été posée hier au Dr Boileau. Il n'y a pas de calendrier en vue là pour, par exemple, faire en sorte que les gens puissent enlever le masque à l'intérieur. Donc, avez-vous l'impression que le masque, contrairement au passeport vaccinal, c'est quelque chose qui pourrait durer plus longtemps? Je ne parle pas des gens qui veulent le porter volontairement, mais qu'on maintienne une obligation pour les lieux intérieurs.
Mais c'est sûr que d'abord, le masque, d'un point de vue purement scientifique, a plus de données qui montrent que ça apporte une protection. Le passeport vaccinal, c'est un outil supplémentaire qui a eu son rôle à jouer, puis qui a joué un rôle important au moment du pic de la pandémie. Mais les masques, on sait que c'est utile, on sait qu'ils ont une capacité d'arrêter la transmission du virus. Donc, pour des lieux, je vous dirais, publics, c'est sûr que dans le système, par exemple, hospitalier, dans le réseau hospitalier, je ne vois pas enlever le masque de sitôt parce qu'il y a un effet protecteur pour beaucoup de choses. Donc le masque, je pense qu'il va être là pour rester un petit peu plus longtemps. C'est sûr qu'avec l'arrivée du printemps, de l'été, si les choses surtout s'améliorent, on verra certainement le masque aussi sauter dans certaines circonstances. Et comme vous le disiez bien, il y a quand même une certaine partie de la population qui va volontairement garder son masque, ce qui va faire qu'on aura inévitablement une certaine protection qui va venir de peut-être 40-50% de la population qui, de toute façon, des personnes plus âgées, des personnes à risque, les familles de ces gens-là, des contacts de ces gens-là qui vont dire ben moi j'irai faire mon épicerie en gardant mon masque. Donc le masque va être là pour un peu plus longtemps, puis le masque va certainement rester dans certaines choses spécifiques. Je pense au transport en commun, je pense au voyage en avion, je pense au système hospitalier ou des je vous dirais un environnement clos où le risque de transmission est plus élevé.
Bon, beaucoup de courriels et beaucoup de commentaires concernant le passeport vaccinal et le fait qu'au resto, donc à partir du 14 mars, je vais pouvoir aller, par exemple, prendre un repas, puis à la table à côté de moi, il y a des gens qui sont des non-vaccinés. Et pour beaucoup de personnes, c'est une source d'inquiétude. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets de prendre un lunch à côté de gens qui ne sont pas vaccinés?
Ben écoutez, ça dépend de l'épidémiologie globale. Si on arrive à contrôler la maladie d'ici là, si vous êtes triplement vacciné, donc rappelez-vous que si vous êtes triplement vacciné ou si vous avez fait la COVID et vous aviez eu deux vaccins ou vous avez eu deux vaccins et vous avez fait la COVID récemment avec Omicron, la probabilité qu'il va vous arriver quelque chose est extrêmement faible. Donc moi, personnellement, je ne serais pas très, très inquiet dans ce contexte-là. On s'entend aussi que, et on s'attend aussi à ce que les gens, même non vaccinés, soient respectueux dans le sens que c'est pas le moment d'aller au restaurant si vous êtes malade et vous avez des symptômes. Donc il y a un certain aussi respect, je vous dirais, de la part de la population envers les autres, de garder, je vous dirais, ce qu'on appelle une étiquette respiratoire, c'est-à-dire si vous êtes malade, ben c'est peut-être pas le moment d'aller au restaurant. Mais ceci étant dit, c'est un ensemble de facteurs qui va nous permettre peut-être de retourner à une vie normale, puis on va voir comment les choses vont évoluer. On a aussi des pays qui sont en avance sur nous dans leur, si vous voulez, cheminement. Je pense au Danemark, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Espagne qui a ouvert de façon assez importante. Et donc, ces gens-là ont à peu près 4 semaines d'avance sur nous et on va voir comment les choses vont se passer chez eux. Alors, ça va nous donner des indicateurs. Le Danemark est d'autant plus important que le variant BA2, qui est le sous-variant Omicron, est très, très présent. C'est quasiment toutes les souches. Au Québec, c'est variable, mais moi, je peux vous dire que dans notre environnement, dans mon hôpital, dans la région de Montréal, la semaine dernière, à peu près 17% des souches étaient des BA2. Donc, ça veut dire que la souche est présente, que probablement qu'elle va se propager, mais qu'on ne voit pas de changement majeur dans l'épidémiologie, ce qui est quand même encourageant.
Donc, vous parlez de ces variants, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter, qu'on va découvrir. Hier, on spéculait sur une 6e vague, une 4e dose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord, est-ce qu'on va avoir une 6e vague? La réponse est oui. Mais moi, j'aime pas le terme 6e vague parce que on va pas continuer éternellement. Imaginez-vous, à un moment donné, on va se parler, on va se dire, est-ce que c'est la 14e vague? Et ça deviendra un petit peu ridicule quand on est rendu à parler d'une 6e, 7e vague. Donc, il va falloir parler de cycles de virus probablement dans le futur. Donc, est-ce qu'on va en avoir? Certainement. Qu'est-ce qu'on va devoir faire vraiment pour cette 6e vague, entre guillemets? Ben, ce qu'on veut, c'est protéger notre système hospitalier. On veut pas que les gens à risque, donc les gens qui risquent de tomber malades, tombent malades et ont besoin d'aller à l'hôpital. Parce que ceux qui sont jeunes, en bonne santé, etc., ces gens-là, surtout si vous êtes vaccinés, il ne va pas vous arriver grand-chose. Même les plus âgés, même les gens, et on l'a vu dans les CHSLD bien vaccinés, il y a eu très peu d'impact relativement de la COVID dans ce groupe-là. Les gens ont été malades, mais on n'a pas vu beaucoup de gens hospitalisés comparé à la première, deuxième vague. On n'a pas vu beaucoup de décès dans ces groupes-là. Donc, on a vu que le vaccin a fonctionné. Par contre, ce qu'il va falloir faire, il va falloir s'assurer que les gens qui sont à risque, donc les gens qui sont malades, qui ont des cancers, de la dialyse, des problèmes cardiaques, pulmonaires, en tout cas, on peut mettre la liste au complet. Si vous faites la COVID, il va falloir, premièrement, vous tester rapidement, puis deuxièmement, vous administrez les médicaments qu'on a de plus en plus. Il y a des médicaments maintenant disponibles, les anticorps monoclonaux, des médicaments comme le Paxlovid. Il y en a toute une fournée, je vous dirais, qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, il va falloir, dans un centre qui soit établi, vous le donnez très rapidement, vous puissiez avoir accès à ça pour qu'on diminue l'hospitalisation. Parce que ça diminue de quasiment 80% et plus le risque d'hospitalisation. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver dans un environnement où le système hospitalier de soins aigus ne sera pas bousculé et bouleversé. Et si on arrive à faire ça, ben on va apprendre à vivre avec ce virus-là et l'impact sur notre société va être gérable et on va finir par justifier un petit peu le fait d'avoir levé des mesures. Quant à la quatrième dose, je vous dirais actuellement, ça ne devrait pas être dans les cartons. Pour avoir parlé à mes collègues en Israël, qui est probablement le pays qui a le plus poussé pour la quatrième dose, je vous dirais que mes collègues médecins sont pas convaincus du bienfait de la quatrième dose pour la population générale à l'étape actuelle, c'est-à-dire pour l'ensemble des gens, les gens qui ont moins de 65 ans et qui sont ou ceux qui sont en forme. Donner une quatrième dose, il n'y a pas beaucoup d'utilité pour l'instant. Ce qu'il y a comme utilité, c'est pour les gens à risque. Donc oui, la quatrième dose, ça va être des populations très, très ciblées. Donc je pense encore une fois aux gens greffés, je pense aux dialysés, je pense aux gens qui ont de la chimiothérapie intensive, je pense à des gens qui ont des conditions cardiaques ou pulmonaires très sévères et donc qui ont très peu de réserves, et peut-être à des personnes âgées, très âgées, dans des CHSLD, etc. Donc on parle de quatrième dose très ciblée pour l'année 2022. Évidemment, à moins d'un changement radical de la pandémie, l'arrivée d'un nouveau variant complètement différent, etc., mais ce qui est quand même peu probable. Donc, on ne parle pas de quatrième dose tout de suite. Est-ce qu'on va devoir ensuite gérer des quatrièmes doses au niveau de tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans? Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verra et qui sera gradé selon la population. C'est-à-dire, si vous êtes très en santé, on vous dira peut-être que vous allez avoir besoin d'une dose de rappel aux 4 ans. Et peut-être si vous êtes très malade ou très âgé, ben on vous dira, vous, ça va être aux ans. Donc, il va y avoir une variabilité à géométrie variable, on va dire, pour ça.
Dr Weiss, encore une fois, merci. Bonne journée à vous.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Donc, je rappelle, pour le passeport vaccinal, c'est ce qui a été décidé, va disparaître. On le met de côté et on verra comment la situation, comme dit Dr Weiss, va évoluer.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Entre-temps, il y a quand même une réalité qui hérite de plus en plus des personnes âgées au Québec, des gens qui habitent des RPA, des résidences pour personnes âgées. On sait que Québec a annoncé hier, d'abord, que le passeport vaccinal ne sera plus requis dans ces établissements, donc à partir du 14 mars, et promet aussi des mesures. Ce que je comprends, c'est, on parlait de géométrie variable, là, c'est vraiment ça. Et un exemple qu'on peut donner, c'est que, par exemple, vous habitez une RPA, vous avez le droit d'aller souper chez vos enfants, voir vos petits-enfants, mais l'inverse n'est pas vrai dans l'état actuel des choses. J'en parle avec Raoul Charbonneau, qui est le président de l'Association des comités de résidents du Québec. Monsieur Charbonneau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que j'ai raison de dire que ça varie quand même beaucoup d'une place à l'autre, là? Il y a des endroits plus sévères, il y a des endroits qui contrôlent davantage les personnes âgées.
Exactement, et on se demande sur quelle base ces règles sont placées, étant donné que moi, comme aîné, je peux me rendre chez mes enfants, avoir un repas familial, peu importe le nombre de personnes, Mais par contre, dans mon appartement, dans ma RPA, je ne peux pas recevoir, par exemple, ma fille avec son conjoint et ses deux petits-enfants pour un souper familial. Et ça, c'est difficile à comprendre pourquoi que cette règle-là existe, alors que même dans une RPA, on est mieux protégé qu'en dans une résidence privée. Ici, présentement, la personne qui nous visite doit présenter un passeport vaccinal, se désinfecter obligatoirement les mains, porter un masque pour se rendre dans notre appartement. Et si on suit les règles à la lettre, à l'intérieur de notre appartement, les personnes doivent porter le masque. Voyez-vous, deux mesures. Nous, ce qu'on aimerait, que les règles normales s'appliquent à partout, même au niveau d'une RPA. Le déconfinement, là, nous en avons besoin. Notre santé mentale, elle est en train de partir parce que ça fait des mois qu'on ne peut pas vraiment accueillir nos familles chez nous.
Un autre point, M. Charbonneau, vous pouvez aller au restaurant, aller manger chez un de vos enfants. Bon, par exemple, dans les résidences, est-ce que la salle à dîner, la salle à manger est rouverte? Est-ce qu'on peut s'asseoir quatre? Est-ce que c'est permis ou pas?
Oui, les salles à manger sont adaptées. Il y a des plexiglas et il y a une certaine possibilité, mais encore là, c'est pas comme avant. Hein. Par exemple, le bar à salade, c'est fini. Le choix de potage ou de soupe aller se servir soi-même, c'est terminé. Je dis pas que c'est un mal, parce que ça, même en temps normal, ça devrait encore exister. Mais il y a des restrictions importantes. On doit, par exemple, suivre un horaire très, très serré et on a une table qui nous est destinée, puis c'est toujours la même. Dans les espaces communs, on doit porter le masque, et ça, c'est parfait. Une fois assis, là, on peut l'enlever.
Mais ce que je comprends, là, puis vous n'êtes pas le seul à me dire ça, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'il a déménagé ses parents dans une résidence, puis là, ils arrivent sept pour déménager, puis là, ils se font répondre que c'est pas plus que quatre personnes, puis que c'est deux à la fois dans l'appartement. Ça devient un peu là irritant, puis pour pas dire autre chose. Dans le fond, vous dites, on a besoin de voir du monde.
Ben oui, puis ce qui est choquant dans tout ça, là, c'est que les consignes qu'on nous oblige, elles ne sont pas les mêmes que pour la population en général. Pourquoi interdire dans notre appartement la présence de plus de deux personnes, alors qu'à l'extérieur, lorsqu'on va faire notre épicerie, lorsqu'on va au resto, etc., ces normes-là ne s'appliquent pas. Donc, c'est pas parce que je suis à l'extérieur que je peux attraper moins facilement la COVID. Je pense que c'est le contraire. Pourquoi nous imposer des mesures, des consignes sanitaires qui n'ont pas d'allure, qui n'ont aucune base scientifique?
M. Charbonneau, je comprends très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Bonne journée.
Bonne journée.
Raoul Charbonneau est le président de l'Association des comités de résidents du Québec. En principe, Québec va annoncer des mesures. Mais le problème, là, c'est pas juste de les annoncer, c'est de les faire atterrir. C'est toujours pareil, parce que là, vous avez quelqu'un qui décide que la santé publique recommande ça, mais nous autres, on va être plus sévères. Pour toutes sortes de raisons. Puis je sais, il y a le syndrome là, de la première vague, puis des personnes âgées qui sont décédées. Mais tu sais, comment peux-tu expliquer à quelqu'un, là? Tu dis, moi, je peux pas inviter mes enfants, mes petits-enfants à venir souper, mais je peux aller chez eux, par exemple. Puis on peut même aller en gang au restaurant. Ça devient frustrant. Mais là, il ne faut pas être hypocrite. Comme quelqu'un me disait hier, quand vous allez pouvoir y retourner, allez-vous y aller? Parce qu'on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont laissées seules, ou en tout cas qui n'ont pas trop de visiteurs. Mais on peut comprendre, disons, cette détresse chez beaucoup d'entre eux. Puis je peux vous dire que les cas là, sont quand même assez ahurissants à certains endroits.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Beaucoup de questions sur l'essence, Matt. Ben, en fait, on le voit, le prix de l'essence grimpe, puis la cadence est solide, là, 1,70 $, 1,72 $. Ce qui amène beaucoup de questions. Bon, on va parler de l'univers de l'automobile avec notre ami Benoît Charrette, qui est le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Ben, le prix à la pompe, là, ça n'arrête pas d'augmenter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là?
Bon, on va faire un résumé. On va reculer d'un an, mais on va aller vite. Rappelle-toi, au début de la pandémie, on avait le litre d'essence sous les 80 cents le litre. On était même à 75, 76 dans certaines régions. Là, évidemment, les gens étaient à la maison, il n'y avait pas de demande, donc il y avait beaucoup d'offres et peu de demandes. Et là, tranquillement, ben évidemment, on a un peu déconfiné, on est revenu à des valeurs plus normales, sauf que l'OPEP avait organisé ses prix en fonction que ça n'arrive plus. Donc, on voulait pas de hausse et de baisse cruelle comme on avait eu. Donc, on a limité la production de barils pour augmenter seulement de 400 000 barils de plus par jour, et ça s'est décidé l'automne passé. Donc, on a créé une espèce de, disons, pénurie artificielle, appelons-la comme ça. Et là, bien évidemment, plus récemment, le problème se situe avec le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, les dangers d'invasion qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un très grand producteur de pétrole, et Joe Biden a menacé d'avoir des réprimandes et parmi ces réprimandes-là, de ne plus prendre de pétrole de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres membres de l'OPEP devront pomper plus de pétrole pour fournir le monde, mais eux ont décidé de dire non, on garde la cadence qu'on a. Donc là, ce qu'on craint, c'est qu'on craint qu'il y ait une pénurie si la Russie passe du côté de l'Ukraine et qu'il y a une invasion. Okay. Donc, les prix à la hausse qu'on a en ce moment proviennent beaucoup de là. Évidemment, si la Russie décide de ne pas faire l'invasion de l'Ukraine, on devrait logiquement voir les prix revenir à des valeurs plus normales et baisser un peu.
Mais là, disons que la consommation va augmenter. Là, on déconfine, je comprends que le télétravail demeure une option, là. Mais les gens, on va arriver au printemps, puis il y aura des déplacements, même cet été, à travers le Québec. À 1,70 $, d'après toi, là, puis je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est un plafond ou ça pourrait monter encore?
Moi, je pense qu'on peut se rendre à 2 $ probablement, parce que là, évidemment, si l'OPEP... Parce que là, l'OPEP a le gros bout du bâton. C'est eux qui produisent la grande majorité du pétrole sur la planète. Et eux, pour le moment, ont décidé de ne pas produire plus. Donc, le problème qui arrive, c'est qu'on va arriver à un plafonnement au niveau de l'offre et la demande va continuer d'augmenter parce que tu l'as dit, on déconfine, les gens vont voyager plus, vont sortir. Donc, si l'OPEP décide de ne pas bouger, la pression à la hausse va continuer et d'après moi, on pourrait atteindre les 2 $ le litre quelque part au courant de l'été.
Bon, la grande question, est-ce que je suis obligé de mettre du super? Est-ce que je peux me contenter de l'essence de base pour mon véhicule, peu importe là, ce qui est indiqué par le manufacturier?
Moi, je dis toujours aller selon les recommandations, parce qu'il y a des moteurs à haut rendement, des moteurs turbo, qui demandent des taux de détonation plus élevés. Parce que de l'essence super, c'est quoi? Ben, c'est une essence qui a un taux de détonation plus élevé pour les moteurs de performance des moteurs turbo. On peut mettre de l'ordinaire une fois, là. C'est pas dramatique. D'abord, on va perdre la puissance avec de l'ordinaire parce que c'est une essence moins performante. Mais c'est surtout qu'on risque d'encrasser le moteur et c'est surtout ça le problème. Vous allez sauver quelques dollars à la pompe, mais vous allez en payer plus en réparation plus tard, donc l'équation n'est pas intéressante. Ceux qui n'ont pas de recommandation pour de l'essence super, mettez de l'ordinaire, ça donne rien. Des gens disent « Ah, le super, c'est plus propre » et tout ça, mais si c'est pas recommandé, vous restez à l'ordinaire, mais si on vous recommande le super, puis c'est toujours indiqué. En ouvrant le clapet, c'est toujours marqué minimum 91 ou minimum 87 dans la plupart des cas. Sinon, dans le manuel du propriétaire, qui maintenant est dans bien des voitures plus récentes, directement dans l'écran central, il y a une icône dans voiture ou dans car, puis vous allez dans le manuel directement là et vous pouvez consulter là, c'est toujours écrit.
Bon, deux questions rapides en terminant. D'abord, les voitures d'occasion, paraît-il que ça n'a jamais coûté aussi cher? On comprend qu'il y a une forme de rareté là aussi qui s'est créée.
Ben, en fait, il y a une rareté. D'abord, un, il n'y a pas beaucoup d'auto sur le marché neuve ou d'occasion. L'autre problème, c'est que le dollar canadien est bas. Et quand le dollar canadien est bas, les Américains viennent acheter nos véhicules d'occasion. On a dit là, l'an dernier qu'il y avait à peu près 100 000 véhicules au Québec d'occasion qui étaient partis du côté des États-Unis. On s'enligne en 2021, les chiffres sont pas tout à fait sortis, mais c'est 200 000, c'est le double. Parce que les Américains achètent à prix canadien sans négocier, puis on est à peu près 1,27 $. Eux autres vont revendre ça au même dollar américain, puis ils font presque du 30% de profit sans négocier. Alors, ils sont morts de rire, ils viennent acheter à peu près tout chez nous. Alors, les gens qui achètent chez nous ont très peu de véhicules dans lesquels choisir. Puis l'autre problème, mais comme il n'y a pas de neuf, on se rabat souvent sur l'occasion et l'occasion devient très, très chère. Écoute, le prix moyen pour un véhicule d'occasion au Canada en 2021, c'était presque 28 000 $. Même des gens qui ont des véhicules récents, des 2018-19, peuvent pratiquement revendre ce véhicule-là au même prix qu'ils l'ont payé neuf trois ans plus tard. Là. On en est là pour le moment.
Et est-ce qu'il y a encore des délais de production là, à cause des fameux microprocesseurs? Oui. Donc, les gens qui achètent un véhicule neuf, de façon générale, vont devoir patienter.
Absolument. Écoute, Paul, on parle encore des fameuses micropuces. Il n'y a pas encore de rétablissement. Ça s'améliore. Les constructeurs disent que ça va aller mieux au courant de l'année 2022, mais on prévoit une année 2022 à l'image de 2021. Ça n'ira pas beaucoup plus vite. On le sait, les chaînes d'approvisionnement, c'est difficile. Et là, il y a même des séquelles à cause des camionneurs sur le pont Ambassador là, du côté de Windsor. Les usines Toyota en Ontario sont encore fermées, même si le blocus est terminé. On va reprendre tranquillement, mais faut pas s'attendre à de grands miracles pour 2022. Là, on est rendu à 2023 à ce niveau-là.
Merci, Benoît. Bonne journée.
Merci, Paul. Salut.
Benoît Charrette, donc, collaborateur, rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Puis d'ailleurs, il fait une émission sur le réseau Cogeco. Ça s'appelle « Ça tient la route ».
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.